Radio Okapi.
Les informations, c'est tout de suite avec Grâce Amizati.
Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. Les Léopards de la RDC défient les Fenech d'Algérie ce soir pour une place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Maroc 2025. Nous en parlons avec Delphin Kikuni, analyste sportif et ancien vice-président de la Ligue nationale de football. Pas de rentrée de classe ce mardi dans la localité de Boulé en Ituri à cause des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la milice Convention pour la Révolution populaire CRP. Après une vive tension observée hier à Colésie, les manifestations des creuseurs artisanaux s'apaisent après la levée partielle de la suspension des activités minières. Restez avec nous pour tous les détails de ces événements qui font l'actualité. Commençons tout de suite par le sport et le match très attendu de cet après-midi. Kit ou double pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui entrent en lice pour les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Ils affrontent les Fenech d'Algérie dans un match indécis dont l'issue reste difficile à prévoir. Si les Congolais n'ont jamais battu leurs adversaires du jour en match officiel, le sélectionneur national Sébastien Desabre affiche sa détermination à briser le signe indien et à qualifier son équipe pour les tours suivants. Présentation de cette rencontre dans ses condensés de Jean Gando, rendu par Alain Rongmochinch.
Les Algériens et les Congolais arrivent chacun avec des atouts susceptibles de faire la différence. Les Fenech bénéficient des faveurs des pronostics, notamment grâce à leur position dans le dernier classement FIFA, 3e en Afrique et 34e au monde, contre la 9e place africaine et la 56e mondiale pour les Léopards. L'Algérie aborde ce deuxième tour après un parcours sans faute en phase de groupe, 3 victoires en 3 matchs, soit 9 points, 7 buts marqués et un seul encaissé, ce qui lui a permis de terminer en tête de son groupe. La RDC de son côté a terminé deuxième avec 7 points, 5 buts inscrits et un but concédé. Les deux sélectionneurs ont d'ailleurs annoncé en conférence de presse d'avant-match qu'ils pourraient réserver des surprises, tant dans la composition du 11 de départ que dans le système de jeu. Tous deux s'attendent à un match difficile, mais chacun croit en ses chances de qualification. La rencontre pourrait se jouer en 90 minutes, se prolonger ou même se décider au tir au but. Sur les réseaux sociaux, l'engouement est palpable. Supporters algériens et congolais échangent des piques dans un esprit sportif. Dans les tribunes, les Algériens seront nombreux, plusieurs ayant traversé la frontière pour soutenir leur équipe. Côté congolais, la diaspora présente au Maroc sera renforcée par des supporters venus de Kinshasa.
Plusieurs systèmes de jeu seront mis en place par rapport à l'adversaire. C'est ce qu'a déclaré hier Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, lors de la conférence de presse d'avant-match. Pour sa part, l'attaquant Cédric Bakambu estime qu'ils vont bien gérer ces matchs pour se qualifier au prochain tour. Il a dit au cours de la même conférence d'avant-match. On les écoute dans ses propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM.
C'est vrai qu'on a fait une bonne production, on avait de la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en place, que ça soit à 3 derrière, que ça soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc puisque chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que aussi la satisfaction pour nous, c'est qu'en ayant changé de système au départ, on a eu une belle prestation.
Concernant la gestion du match avec le groupe, on gère comme d'habitude. L'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle. On calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations.
La victoire des Léopards, c'est l'unique option à laquelle s'accrochent de nombreux Congolais, notamment ceux rencontrés à Kisangani, dans la province de la Tchopo. On les écoute au micro de Pepe Lisungi, Boto Moito.
en confiance avec mon équipe et avec les joueurs, parce que nous avons de bons joueurs, des joueurs de qualité. Nous avons gagné ce match-là, nous allons gagner à 2-0.
Je suis maman. En tout cas, j'ai pari qu'aujourd'hui la RDC puisse gagner 2-0.
Le match sera très difficile, d'autant plus que les Algériens sont en forme. Nous pensons que la victoire sera la nôtre.
Bon, étant que Congolais, mon souhait c'est de gagner 1-0.
Étant que Congolais, ce qui m'importe c'est la qualification. Que ce soit les scores, qu'on parte à prolongation ou au tir au but, parce que tout peut se jouer pendant ce match. Ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus la qualification.
Ces derniers temps avec la RDC, on est fiers de notre équipe. L'équipe est en forme. Mais vraiment, nous espérons la victoire. On est fiers de notre équipe et nous espérons toujours être qualifiés.
Nous l'avons dit dans les titres, à Ituri, les élèves d'une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires de la localité de Boulé, dans le territoire de Djougou, n'ont pas repris le chemin de l'école ce mardi après les vacances de fin d'année. En cause, les affrontements qui opposent depuis près de 3 semaines les forces armées de la RDC et FARDC à la milice Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga dans cette entité. La société civile locale appelle les deux parties à privilégier l'intérêt de la population. Le récit de Isaac Remoyope, rendu par Élise Kavira.
C'est peu avant Noël que les écoles ont fermé leurs portes à Boulé à la suite des combats quasi quotidiens entre les FARDC et le groupe armé CRP. Selon la société civile locale, la situation sécuritaire n'a cessé de se détériorer pendant les vacances de fin d'année. Cette insécurité a contraint la quasi-totalité de la population à abandonner les milieux pour se réfugier autour du camp des militaires ougandais à la périphérie des Boulé. Ce mardi matin, jour pourtant prévu pour la reprise des cours, aucune école n'a ouvert ses portes. Pire encore, la reprise des activités scolaires reste incertaine, déplore la société civile, qui craint une année blanche pour les élèves de la zone. Cette structure citoyenne appelle les deux parties à privilégier l'intérêt de la population. Signalons que des centaines d'écoles ne sont plus opérationnelles dans les territoires de Djougou à la suite des exactions des groupes armés depuis 2017.
Situation presque similaire au Nord Kivu, où des milliers d'enfants ne pourront pas reprendre le chemin de l'école en cette rentrée post-vacances de Noël prévue pour ce 6 janvier 2026. C'est dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. Pour cause, ces enfants proviennent majoritairement des familles déplacées ou des ménages gravement touchés par la guerre, les empêchant d'accéder à l'éducation. La solidarité communautaire des luttes contre le tribalisme en RDC, qui fait le constat, lance dès ce mardi une campagne d'encadrement en faveur des enfants déscolarisés. Cette structure annonce l'ouverture de 3 centres de rattrapage scolaire à Kiwanja et à Kanyabayonga pour y accueillir au moins 150 enfants au niveau de l'éducation de base. Cependant, son chargé de programme appelle à un soutien urgent, rappelant que les activités sont menées avec des moyens très limités. Clovis Kambali, on l'écoute.
Dans la zone de santé de Kibirizi, il a été retrouvé plusieurs enfants déplacés qui ont quitté, notamment dans le groupement Mutanda à Ikobu, où il y a eu des affrontements pendant la période scolaire et que les enfants sont quittés brusquement et ils n'ont pas aucun document, aucun matériel scolaire qu'ils utilisent. D'autre part, les écoles de la zone exigent par trimestre 10 000 francs pour le paiement scolaire et que les familles n'ont pas de capacité pour payer ces frais-là. Ce qui fait que les enfants sont restés dans les villages sans reprendre le chemin de l'école. C'est pourquoi nous avons aussi une idée d'organiser des centres de rattrapage scolaire pour encadrer ces enfants du point de vue éducationnel, mais aussi du point de vue psychologique. Étant donné que le besoin est tellement immense, c'est pourquoi nous demandons des partenaires pour qu'ils nous viennent en appui et que ces activités puissent être étendues dans d'autres localités.
Et dans la province du Maniema, la rentrée scolaire s'est déroulée timidement dans la province éducationnelle Maniema 1. Selon son directeur, qui a effectué une ronde dans plusieurs établissements, très peu d'élèves se sont présentés en classe ce mardi 6 janvier. Il appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils entament ensemble le deuxième trimestre. Reportage à Kindu, signé Florence Kiza Lunga.
Dans le riz ce matin, les élèves en uniforme bleu et blanc étaient peu nombreux. Ceux que nous avons rencontrés se disaient toutefois heureux de reprendre les chemins de l'école.
Après des semaines de repos, je retourne à l'école avec force. Moi, je suis heureux de reprendre encore l'école. Moi, je vais voir mes amis et ma maîtresse.
Le directeur provincial Muto Balingen et Jacques invite les parents à ne plus garder les enfants à la maison.
Dans certaines écoles, justement, certains élèves ne sont pas arrivés. Donc, je demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école, puisque ça ne sert à rien de les garder à la maison. Nous avons 222 jours sur le calendrier scolaire et les 222 jours doivent être pleins pour les enfants. Nous avons des programmes à achever et les enfants doivent respecter les 222 jours inscrits au calendrier scolaire.
De son côté, le ministre provincial de l'Éducation, Mère Amarungu, rassure les enseignants qui rencontrent encore des difficultés liées au paiement de leur salaire.
Nous sommes sans ignorer que les enseignants ont beaucoup enduré, traversé des difficultés liées à leur salaire et je tiens à rassurer à tous les enseignants du maniement que leur situation sera améliorée d'ici au mois de février 2026.
Par ailleurs, nous apprenons que les enseignants du maniement 2 ont déclenché un mouvement de grève ce même mardi 6 janvier. Depuis Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pendant ce temps au Kasaï oriental, de nombreux enfants en âge scolaire dont les parents sont aveugles ne fréquentent pas l'école. Certains accompagnent leurs parents dans les rues pour mendier de quoi survivre, tandis que d'autres sillonnent les comptoirs des diamants et les devantures des boutiques à la recherche des moyens de subsistance. La division provinciale des affaires sociales indique avoir organisé des rencontres et des séances de sensibilisation pour encourager les parents aveugles à se faire accompagner par leurs conjoints, hommes ou femmes, afin de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité. Des explications à Mbujimayi avec Esther Ndalafina.
Andy Beya, âgé de 11 ans, est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Il est contraint de parcourir 10 à 15 kilomètres par jour avec son père pour mendier. Il n'a jamais terminé une année scolaire malgré la gratuité de l'enseignement primaire.
Nous allons commander dans des terrasses, au marché, dans des comptoirs de diamants. Par jour, on peut avoir 9 000 francs. Il y a des jours, on totalise 15 000, même 5 000. Si on ne commande pas, on ne mange pas à la maison.
Stanley Ntumba, 14 ans, parvient à fréquenter l'école et accompagne son père pour commander après les cours. Sa scolarisation lui permet d'acquérir quelques bases en français.
La phrase impérative, la phrase exclamative.
Bien avant d'atteindre l'âge de 15 ans, les enfants des parents aveugles assument déjà une double charge, témoignage des parents.
Je n'ai rien à faire. Quand ils vont à l'école, je suis bloqué à la maison.
Le chef de division provinciale des affaires sociales, François Mukendi, se dit préoccupé par l'abandon des cours par les enfants issus des parents aveugles.
La place de l'enfant, c'est à l'école. Il avait été convenu que ces leaders des associations de personnes malvoyantes puissent convaincre leur père à se faire accompagner par leur époux ou par leur épouse.
Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
Nous sommes dans la province du Lualaba. Un calme relatif est observé ce mardi après les échauffourées qui ont opposé la veille des creuseurs artisanaux aux forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi. Selon des sources locales, ces incidents ont causé d'importants dégâts matériels ainsi que quelques blessés. Le soulèvement des creuseurs fait suite à la décision du ministre des Mines suspendant les activités minières dans toutes les entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale. Une mesure que le ministre vient de lever partiellement. Le point avec Paul Mounanga.
Des violentes manifestations des creuseurs artisanaux ont été signalées au quartier Kasolo, Mutoshi, Luilu et Mipeto, rapportent des sources locales. Les manifestants dénoncent la perte de leurs moyens de subsistance à la suite de la mesure prise par le ministre des Mines. Le bilan des manifestations fait état de l'incendie des camions sur la route nationale numéro 39, des biens des particuliers pillés, quelques sous-siates de la police vandalisés et des personnes agressées signalent les mêmes sources. Certaines écoles n'ont pas fonctionné à la suite des troubles et les activités commerciales ont tourné au ralenti. La police et les FARDC ont été déployés pour rétablir l'ordre. Face à la situation sécuritaire préoccupante de la ville de Kolwezi, l'entreprise minière Kamoto Copper Company KCC prend certaines dispositions pour sécuriser son personnel. La circulation des véhicules légers de KCC est suspendue et le transport par bus est limité uniquement aux employés préalablement identifiés par l'entreprise. En outre, la direction de KCC demande aux agents de ne pas circuler en tenue de travail. Lubumbashi, Polemunanga, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Congo central, les maladies cardiovasculaires ont causé 1193 décès sur les 57 185 cas enregistrés en 2025. La division provinciale de la santé qui livre ces chiffres indique que ces pathologies représentent la deuxième cause de mortalité dans la province après le paludisme. Selon les chefs des divisions provinciales de la santé du Congo central, les maladies cardiovasculaires, à l'origine notamment d'accidents vasculaires cérébraux, et d'insuffisance cardiaque sont principalement liées au régime alimentaire et à la sédentarité. Pour réduire leur incidence en 2026, le docteur Bonheur Titekou recommande à la population d'adopter une alimentation équilibrée et de pratiquer régulièrement des exercices physiques. On l'écoute au micro de Nana Plurishimambo.
Donc parmi ces maladies cardiovasculaires, l'hypertension qui vient en tête, nous avons fini l'année avec 57 185 cas. Conséquence, ce sont les accidents vasculaires cérébraux et aussi l'insuffisance cardiaque. Sur les 57 185 cas, il y a eu 1193 décès. Et dans nos statistiques, c'est la maladie qui vient en deuxième position après la malaria. Donc ici, c'est beaucoup plus les régimes. Les régimes, lorsque on mange trop gras, trop salé, trop sucré, on est exposé à ces maladies cardiovasculaires et surtout les sédentarismes, ce mode de vie où la personne quitte chez soi, la personne est au bureau assise toute la journée. Il rentre, il dort. Alors tout ça, ça fait qu'on puisse développer ces maladies. Et comment les prévenir? Ce sont les exercices physiques, au moins 30 minutes de marche les jours, et éviter de manger tout ce qui est gras, tout ce qui est salé, tout ce qui est sucré.
Actualité internationale.
En Centrafrique, l'autorité nationale des élections, ANE, a annoncé dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier les résultats provisoires de la présidentielle du 28 décembre. Faustin Archange Touadéra est déclaré vainqueur avec 76,15% des voix dès le premier tour. De leur côté, Anissé Georges Dologbele obtient 14,6% du suffrage et Henri-Marie Dondra 3,19%. Avant l'annonce de ces résultats provisoires, les deux opposants avaient dénoncé des fraudes. La participation s'élève à 52,42% selon l'ANE. Les résultats définitifs seront donnés par les conseils constitutionnels le 20 janvier.
L'invité.
Vous le savez, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Fennecs d'Algérie ce mardi 6 janvier dans le cadre du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Maroc 2025. La rencontre est prévue au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat à 17h juste, heure de Kinshasa. Quels sont les principaux enjeux de ce choc très attendu entre la RDC et l'Algérie? Delphin Kikuniano, ancien vice-président de la Ligue nationale de football INAFOOT et analyste sportif, répond dans cet entretien avec Kanish Mukongo Fouanikizi.
Delphin Kikuniano, bonjour.
Bonjour cher Kanish, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi, spécialement à tous les sportifs congolais.
Vous êtes ancien vice-président de la INAFOOT et analyste sportif. Comme vous le savez, la RDC joue l'Algérie ce mardi. Au vu des précédentes confrontations entre les deux nations, peut-on parler d'un choc équilibré ou voyez-vous un favori clair?
Il faut lire les confrontations entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Il faut noter qu'historiquement, la RDC n'a jamais gagné l'Algérie en match officiel, ce qui donne à l'Algérie un avantage sur papier en termes de pronostics. On peut aussi ajouter cet élément-là, les cartons pleins qu'ils viennent de réaliser en phase de groupe, même si les Léopards n'ont pas perdu de match aussi en cette phase de groupe. Mais ils sont deuxièmes, et deuxièmes qui vont jouer contre le premier de leur groupe. Il s'agit donc d'un adversaire qu'il faut fondamentalement prendre au sérieux.
Au regard du parcours des Léopards lors des phases de groupe, les systèmes de jeu utilisés face au Bénin, au Sénégal et Botswana doit-il être maintenu ou adapté face à l'Algérie?
Depuis un temps, il faut lire tous les matchs que les Léopards ont joués. Il faut dire qu'ils ont développé des jeux atypiques. Des jeux qui ne sont pas nécessairement taillés sur mesure, mais des jeux qu'ils réalisent bien sûr en tenant compte de l'adversaire, mais également en poussant l'adversaire à s'adapter au rythme des Léopards. C'est ce qui fait que bon, ils laissent des fois l'adversaire croire à une certaine domination mais qui est passagère, et à chaque fois profiter des erreurs pour créer la différence. Il y a une transition qui se joue au point de contrôler tous les détails, d'éviter des relances qui sont souvent test de gâchis. Ils préfèrent porter les ballons, faire des anticipations et éviter à courir derrière l'adversaire. C'est la force de cette équipe, à mon avis, jusqu'aujourd'hui.
Face à une équipe algérienne expérimentée, comment la RDC peut-elle se comporter mentalement et gérer la pression dans un match à élimination directe comme celui-ci?
Face à l'Algérie, avec toute son expérience, je conseille à une concentration et surtout à la démystification. Il faut considérer la rapidité de ces joueurs, ne pas les laisser prendre des initiatives parce qu'ils sont forts dans des relances, des appels à distance et qui cassent tous les rythmes et qui cassent même l'organisation. L'on doit garder son mental très haut, éviter des fautes. On connaît les astuces, les provocations des équipes de l'Afrique du Nord. Il ne faut pas les suivre dans ces provocations-là. Il faut être concentré, rester dans le match, garder un mental très haut, éviter qu'il y ait trop de coups de sifflet et surtout dans la surface. Et là, ça pourrait être un danger permanent. On doit tenir compte du fait que souvent, ils abîment toute organisation, ils cassent tous les rythmes et on doit pour cela rester très concentré.
Quels sont selon vous les joueurs clés sur lesquels la RDC doit compter ou ceux qui pourraient être déterminants lors de ce match?
Il y a Bellurette. Notre équipe nationale dispose aujourd'hui d'un groupe homogène, un groupe costaud et dont le banc rassure. En ce sens, je m'abstiens de miser sur un joueur ou un groupe de joueurs. Même si il faut reconnaître quand même qu'il y a certaines individualités sur lesquelles le collectif peut s'appuyer. C'est le cas du capitaine Chancel Mbemba, c'est le cas de Bakambu. Ils ont leur expérience, mais il faut savoir que les adversaires ont toujours visionné le match et ils savent déjà sur qui nous comptons. Et donc, à ce moment-là, il faudra qu'il y ait des surprises, des joueurs qui ne sont pas attendus. On l'a vu lors du match contre le Botswana et ça fait une fierté. Donc, à mon niveau, je ne voudrais pas nécessairement compter sur un joueur. J'ai confiance au groupe homogène et un banc qui est très, très abondant. Il faut pousser que chacun puisse se déterminer dans le rôle qu'il joue, considérer qu'il doit jouer pour tout le monde et le jeu collectif l'a toujours emporté sur des individualités. Il faut comprendre qu'on est dans une phase éliminatoire directe. Il suffit d'un faux pas et on est resté.
Avant de terminer, quel message adressez-vous aux supporters congolais avant ce match décisif?
Les supporters congolais, je crois qu'avec la légende de notre Lumumba qui fait parler de la RDC, il faut compter sur ça. Il faut s'appuyer sur ça et également on doit s'appuyer sur la nature qui fait que les Marocains vont être derrière les Congolais. Et je suis sûr qu'on va amener le stade de Martyrs à Rabat. Les supporters doivent continuer à pousser, chanter, obliger nos joueurs à faire mieux. On a besoin de résultats. Et ces résultats là-bas, c'est le concours de tout le monde. Le souhait, c'est d'aller plus loin, de dépasser les caps des demi-finales. Et le 12e homme, que les supporters congolais a un rôle capital à jouer à ce niveau-là. Tous les Congolais, où qu'ils soient, doivent soutenir l'équipe nationale. C'est la fierté de notre pays, c'est la fierté de la République. Et c'est de cette façon-là qu'on va faire parler de nous. C'est de cette façon-là qu'on va faire respecter notre équipe nationale.
Delphine Kikuni, je vous dis merci.
Notre invité était avec Kanis Mokongo Fanikizi. Votre journal de ce midi se termine ici. Grâce à Mzati Massanze à la présentation, mise en œuvre par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, coordonnée par Jean-Désiré Kanyama et supervisée par Alain Rong Mouchinge. Entre suspens sportif pour les Léopards, renta scolaire sous tension à Boulé et à Kalmi à Kolwezi après les manifestations des créateurs artisanaux. Restez à l'écoute pour suivre l'évolution de ces faits sur la fréquence de la paix.